RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Géorgie partagent leurs expériences de l'éradication de corruption. Inka coopère avec la compagnie de chemin de fer de la Thaïlande. L'Indonésie méfie de l'impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Le ministère des Travaux publics et du Logement du Peuple, ou PUPR, construit un lieu de vacances au niveau international au Géoparc Toba. Le consul général de la République d'Indonésie à Shanghai cible 50 000 visiteurs à Inavik. Décret présidentiel sur la journée nationale de la radiodiffusion devrait être signé bientôt. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Bambang Susatyo, le président de la Chambre des représentants de la République d'Indonésie ou le Parlement, a déclaré que l'Indonésie et la Géorgie avaient l'expérience de l'éradication de la corruption. Pour cela, il espère que les deux pays pourront partager leurs expériences de la pratique d'éradication de la corruption. Il a déclaré que cette chose lorsque la délégation du Parlement indonésien a tenu une réunion officielle du 138e forum de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse dimanche. Selon lui, lors de cette réunion bilatérale, le président du Parlement de Géorgie a transmis le succès de son pays dans l'éradication des pratiques de corruption. Selon les données internationales sur l'indice de transparence, l'indice d'éradication de la corruption en Géorgie a augmenté de façon significative de 74 points en seulement 11 ans. L'index d'éradication de la corruption en Géorgie a été mieux enregistré que certains pays européens comme la Tchèque, la Lettonie, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie. Le chef d'état-major du président Muldoko a reçu le représentant spécial du gouvernement thaïlandais dirigé par le général Chamlong Kunsong récemment. Ils sont venus en Indonésie pour signer un accord de coopération entre PT Inka avec l'entreprise thaïlandaise de chemin de fer d'État, State Railway of Thailand, ou SRT, et l'entreprise Tanakorn Company Limited dans les affaires de la coopération accrue de chemin de fer, accompagné par le directeur de PT Industrie Nationale Kereta Api, ou Inka, et le premier adjoint au chef d'état-major présidentiel Darmawan Prasojo. Muldoko a confirmé que cette coopération pouvait être une nouvelle étape plus ferme pour renforcer d'autres coopérations conjointes entre les deux pays dans le domaine politique, économique, social et culturel. Selon M. Muldoko, dans une déclaration écrite à Jakarta récemment, le gouvernement thaïlandais a une vision et de grandes idées de renforcement les relations entre l'Indonésie et la Thaïlande. PT Inka, SRT et Tanakorn ont convenu de créer une synergie où le gouvernement thaïlandais attend le soutien de PT Inka sous la forme de la production de locomotives, le transfert des technologies et le renforcement des capacités dans l'industrie ferroviaire. Le PDG de PT Inka, M. Budi Noviantoro, a dit qu'actuellement la coopération entre SRT et Inka était faite sous la forme de la fourniture de 150 locomotives qui a commencé par un contrat de 50 locomotives en 2018. Et ensuite, le représentant du gouvernement thaïlandais a invité aussi le gouvernement indonésien et Inka d'être présent dans l'exposition liée à l'industrie ferroviaire à Bangkok et rencontrer le premier ministre de la Thaïlande. Les États-Unis imposeront une nouvelle politique de coûts d'importation pour les produits chinois d'une valeur de 60 milliards de dollars américains ou équivalent de 824 trillions rupiah. Si elle est généralisée, l'Indonésie pourrait ressentir l'impact direct de la guerre commerciale. L'expert en commerce international Fitra Faisal a déclaré à Jakarta récemment que moins il y avait des choses à faire pour faire face aux menaces potentielles de la guerre commerciale. À court terme, le gouvernement devrait anticiper au secteur financier. Par conséquent, Fitra Faisal a également déclaré que le gouvernement devrait assister et intervenir sur le marché. En outre, le gouvernement devrait également préparer et améliorer la compétitivité. Cependant, à moyen terme, le gouvernement est censé cartographier les pays non traditionnels pour devenir ses partenaires commerciaux, tels que Angola, le Sénégal, l'Afrique du Sud, ainsi que le Moyen-Orient, qui n'ont pas été touchés. Il pourrait s'agir d'efforts alternatifs en plus d'accroître la valeur commerciale avec les partenaires traditionnels comme les États-Unis et la Chine. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère des Travaux publics et du Logement du Peuple, ou PUPR, par l'intermédiaire de l'Agence de recherche et de développement, établissant une installation de repos vert respectueuse de l'environnement dans le tourisme de Tele Geopark Caldera Toba Samosir, dans la province de Sumatra du Nord. Le ministre de PUPR, M. Basuki Hadi Mulyono, a déclaré dimanche dans un communiqué écrit que le développement d'infrastructures touristiques du tourisme télé faisant partie de la zone stratégique du tourisme national du lac Toba devrait être planifié de manière intégrée. L'un des aspects les plus importants qui est la considération des touristes est la disponibilité des toilettes propres sur les sites touristiques. Dans le site touristique télé, les toilettes qui sont construites par le ministère de PUPR ont été équipés de stations de traitement de l'eau et aussi stations de traitement des eaux usées, de sorte qu'elles respectent l'environnement. Le tourisme télégéopard Caldera Toba dans la région de Samosir est connu comme le meilleur emplacement pour profiter de la vue sur le lac Toba. Le consul général à Shanghai, Siti Nugraha Mauludiah, cible 50 000 visiteurs à l'exposition de la Semaine d'Indonésie au Inawik, tenue dans la plus grande ville de Chine. C'est ce qu'a affirmé Mme Siti Nugraha Mauludiah à Antara à Shanghai lundi. Selon elle, cet objectif est très réaliste. Compte tenu pendant 3 jours, du 11 au 13 mai, Inawik est centré à l'Oriental Pearl Tower, l'icône touristique de Shanghai. La gratte-ciel de 468 mètres de haut, chaque jour est visité par des milliers de touristes nationaux et étrangers. De plus, le nombre de visiteurs de Inawik est également prévu de dépasser la cible parce que la gestion des bâtiments a contribué à promouvoir l'événement annuel de la coopération entre le consulat général d'Indonésie à Shanghai et la Chambre indonésienne de commerce en Chine. Une série de Inawik est tenue du 4 au 13 mai, mais les 3 derniers jours, cet événement est centré sur Oriental Pearl Tower, qui sera créé 40 pavillons pour exposer la culture, le tourisme, le travail de photographie de la nation et les produits typiques de l'archipel. La Commission de radiodiffusion indonésienne au KPI espère que le décret présidentiel sur la détermination de la Journée nationale de radiodiffusion le 1er avril est immédiatement signé par le président Joko Widodo. Le chef du KPI central, Yulianda Darwis, dans une déclaration écrite à Jakarta dimanche, a déclaré que la détermination par décret présidentiel était attendue par les radiodiffuseurs indonésiens, puisque cette décision est une preuve de reconnaissance par le gouvernement de l'existence d'un mode de la radiodiffusion nationale qui a commencé depuis la fondation de Solos Radio Vereniging à Solo le 1er avril 1933. Selon lui, l'existence du monde de la radiodiffusion dans cette nation, qui est passée par différentes phases, c'est louable avec la stipulation de la Journée nationale de la radiodiffusion dans le décret présidentiel. Comme cité par Antara, la déclaration de radiodiffusion nationale a été réalisée pour la première fois par la Société de Solo le 1er avril 2009. Cette initiative a été poursuivie par le maire de Surakarta à cette époque, Joko Widodo, qui a envoyé une lettre au ministre de Communication et de l'Informatique sur la proposition de la détermination de la Journée nationale de radiodiffusion ainsi que la reconnaissance de KGPAA Mangkunegoro 7 comme le père de broadcasting. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Sauver la Terre avec l'heure de la Terre ». Le Fonds mondial pour la nature, ou WWF, une organisation non gouvernementale internationale qui s'occupe des questions de conservation, de recherche et de restauration de l'environnement, appelle la Terre est en crise. Les dommages à la Terre vont si vite. D'après les rapports sur la planète vivante britannique, 80% des espèces des eaux sont détruites, plus de 50% de la population d'animaux terrestres est atteinte. Il y a 40% des forêts transformées en terres agricoles avec 15 millions d'arbres perdus chaque année pour les matières premières pour la production de pétrole. En outre, le changement climatique fait de l'une des 6 espèces dans le monde menacée d'extinction. Pour sauver la Terre, WWF fait une activité appelée l'heure de la Terre. En fait, qu'est-ce que l'heure de la Terre? Quel est le but de l'activité? L'heure de la Terre est l'événement mondial organisé par le Fonds mondial pour la nature, ou WWF, au dernier samedi de mars chaque année. Cette activité prend la forme d'une panne d'électricité dans les maisons et les bureaux pendant une heure pour accroître la sensibilisation sur la nécessité d'une action sérieuse contre le changement climatique. Cette activité a été lancée pour la première fois par le Fonds mondial pour la nature en 2007. À ce moment-là, 2,2 millions d'habitants de Sydney ont participé en éteignant toutes les lumières qui ne sont pas nécessaires. Après Sydney, plusieurs villes du monde ont participé à l'heure de la Terre 2008. Cette année, l'heure de la Terre a eu lieu dans 180 pays, y compris l'Indonésie. Comme les années précédentes, plusieurs villes indonésiennes ont participé aux activités de l'heure de la Terre. Samedi soir, 24 mars 2018, de 20h30 jusqu'à 21h30 heure locale, la commémoration de l'heure de la Terre en Indonésie a eu lieu simultanément dans ce pays. Cette année, 60 villes participent à cette activité, entre autres Jakarta, Banjarmasin, au sud de Kalimantan, Yogyakarta, Java Central et Pontianak dans la province de Kalimantan Occidental. Cité sur la site officiel du Fonds mondial pour la nature, attendre les lumières pendant 60 minutes devient un symbole de solidarité pour la planète de Terre. Bien que ne soit fait que pour une heure et une fois par an, l'activité l'heure de la Terre a prouvé qu'elle avait un très grand impact, notamment pour économiser de l'énergie. Pour la région de Jakarta, les pannes d'électricité au stade principal de Bung Karno, le bâtiment balai kota, le monument national au Monas, le monument Selamat Datang, Simpang Susun Semanggi et le bureau gouvernemental de Jakarta économiseraient 170 MW d'électricité. En plus d'économiser des coûts et de puissance, les coupures de courant du gouvernement de Jakarta ont également un impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et dans le monde, en plus d'économiser de l'énergie pendant environ plus 10 ans d'action, l'heure de la Terre a aidé à créer 3,4 millions d'hectares de l'aire marine protégée de l'Argentine, l'heure de la Terre de 2700 hectares en Ouganda et de nouvelles lois pour la protection marine et de la forêt en Russie. En regardant les avantages à l'avenir, les bureaux privés peuvent également participer aux activités de l'heure pour la Terre. Cela veut dire n'est pas seulement le bureau du gouvernement. Les économies d'énergie ne doivent pas seulement passer une fois par an pendant une heure, mais sont effectuées et appliquées durablement. L'heure de la Terre est l'un des efforts qui peuvent être faits pour sauver la Terre. Faisons quelque chose afin que la Terre devienne un endroit confortable à occuper. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix d'Indonésie. Nous commençons au 26 mars 1917, première bataille de Gaza. L'Égyptien Expeditionary Force des forces d'armée britanniques lance une offensive dans la bande de Gaza afin de chercher l'armée turque. 6 000 hommes dirigés par le général britannique Sir Archibald Murray pénètrent le territoire alors propriété de l'Empire ottoman. Malgré des effectifs équivalents, la première tentative se solde par un échec. Quand bien même les forces britanniques renouvelleront l'attaque à deux reprises au mois d'avril puis au mois d'octobre de l'année 1917. On continue le 26 mars 1953, les guerres de la France contre la polio. Le médecin américain Jonas Salk annonce sur une radio nationale qu'il vient de découvrir un vaccin antipoliomyélitique. Un an plus tard, le vaccin sera mis en vente par le laboratoire pharmaceutique allemand Behring. On change le 26 mars 1971, indépendance du Bangladesh. Le Pakistan oriental sépare de 16 000 km du Pakistan occidental, proclame son indépendance. Il prend le nom de Bangladesh. Le Cheikh Mujibur Rahman, chef du mouvement nationaliste, devient premier ministre. Dans la partie occidentale du pays, le gouvernement d'Islamabad n'accepte pas cette émancipation et déclenchera une offensive contre les indépendantistes bangladais. Les bombardements provoqueront un exode de plus de 2 millions de civils vers l'Inde et la Bengale. 500 000 personnes trouveront la mort. On termine au 26 mars 1919, l'Égypte et Israël signent un traité de paix. Après 30 années de lutte et de tensions, l'Égypte et Israël signent une traité de paix à Washington. Ce dernier met un terme aux pourparlers entamés par le président égyptien Sadat et le ministre israélien Begin. Le Sinaï sera totalement restitué à l'Égypte en 1982 et les Israéliens quitteront l'agenture du canal de Suez. Toutefois, suite à la signature de cet accord, l'Égypte sera exclue de la Ligue arabe et Sadat deviendra l'ennemi des islamistes extrémistes. Il bénéficiera en revanche de nouvelles relations avec les États-Unis. Ses amis, c'était notre aujourd'hui dans l'histoire ce soir, l'édition le 26 mars.
Indonésie à court. Mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre. Le gouvernement fixe des objectifs 7,8% des exportations vers Taïwan. Le directeur général du développement national des exportations, Arlinda, dans le Forum des affaires indo-taïwanais à Taïwan, a déclaré vendredi que l'Indonésie et Taïwan ont de grands potentiels pour renforcer la coopération commerciale. Arlinda est optimiste d'atteindre cet objectif, l'Indonésie et Taïwan ayant enregistré une croissance économique positive. Il a également déclaré que les exportations totales de l'Indonésie vers Taïwan atteignaient 1,89% des importations totales de Taïwan en provenance du monde. Pendant ce temps, les exportations totales de Taïwan vers l'Indonésie l'année dernière ont atteint 2% des importations totales de l'Indonésie dans le monde. Les principaux produits d'exportation de l'Indonésie à Taïwan sont le charbon bitumineux, l'étain, le contreplaqué, le café, le cuivre et la ferraille. Pendant ce temps, 5 principaux produits importés de Taïwan vers l'Indonésie sont le tissu tissé, le tissu tricoté, les groupes électrogènes, les circuits intégrés, électroniques et pièces de résonance électronique et micro-assemblage. Arlinda a déclaré que le café était l'un des produits d'exportation potentiels d'Indonésie pour Taïwan. L'Indonésie est le 4e plus grand producteur de café au monde et se classe au 7e rang des exportateurs de café les plus importants au monde. Il a également révélé que l'année dernière, les exportations de café de l'Indonésie ont augmenté de 17,71% par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, les exportations de café de l'Indonésie vers Taïwan ont atteint 2,89 millions de dollars américains. Pour renforcer les relations commerciales entre l'Indonésie et le Taïwan, un groupe de travail sur le commerce s'est réuni depuis 2016 dans le cadre du Comité mixte du commerce et de l'investissement, ou JCTI, qui est un forum bilatéral de discussion sur le commerce et l'investissement entre les deux parties. Dans un proche avenir, JCTI se tiendra à Bali le 27 mars 2018. À l'occasion du Forum des affaires, Arlinda invite les hommes d'affaires taïwanais à assister à la 33e exposition indonésienne du commerce qui se tiendra à Indonesia Convention Exhibition BSD City Tangerang, Banten du 24 au 28 octobre 2018. L'exposition indonésienne du commerce 2018 devrait accueillir plus de 28 000 acheteurs internationaux et 1 110 participants. Après le forum des affaires, il attend plus d'acheteurs de Taïwan. Pendant ce temps, le chef de la Chambre du commerce et d'industrie indonésienne à Taïwan, Robert James Bintario, a déclaré qu'au cours des 3 dernières années, les importations de café de Taïwan en provenance d'Indonésie ont augmenté. La Chambre du commerce et d'industrie indonésienne de Taïwan invite régulièrement les hommes d'affaires taïwanais à visiter plusieurs lieux classés par les meilleurs producteurs de café en Indonésie, tels que Java Oriental et Aceh. Jusqu'à présent, les importations de café indonésien en Taïwan occupent toujours la 3e place. Ainsi, le gouvernement indonésien devrait continuer à augmenter le nombre de ventes et d'exportations de café vers Taïwan. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Serviteur, bonsoir. Nous vous rencontrons encore dans le programme quotidien Le Magazine Culturel de la Voix de Nizi. Ce soir, nous vous présentons une âme traditionnelle de Java occidentale, Kujang. Serviteur, Java occidentale a divers types d'âmes traditionnelles comme Kujang, Balincong, Pati, Bedok, etc. Kujang est l'une des âmes traditionnelles de Java occidental qui est très connue en raison de sa forme unique. Kujang a commencé à être fait autour du 8e siècle ou du 9e siècle. Il est bien connu comme arme traditionnelle sundanaise qui a une valeur sacrée et un pouvoir magique. Kujang est également considéré comme une arme des paysans et a des racines dans la culture agricole. En général, Kujang a la compréhension comme héritage de Dieu. Comme une âme, depuis le passé jusqu'à présent, Kujang place une position très spéciale parmi les âmes sundanaises. Dans le passé, Kujang ne peut pas être séparé de la vie du peuple sundanais parce que sa fonction comme outil agricole. Avec le développement de la technologie, de la culture, du social et de l'économie du peuple sundanais, Kujang développe et éprouve en changement aussi sa forme, sa fonction et sa signification. À partir d'un outil agricole, Kujang se développe pour devenir une chose qui a son propre caractère et tend à être une arme qui a une valeur sacrée et symbolique. Chaque partie de Kujang a son propre nom, à partir d'un bout pointu qui est utilisé pour l'incision ou le gougage, s'appelle papatu ou kongo jusqu'à ganja ou landayan, c'est-à-dire un angle aigu qui dirige une direction similaire avec papatu. En général, Kujang a 5 à 9 yeux. Kujang qui n'a pas de yeux s'appelle Kujang aveugle. Outre sa forme, la caractéristique du matériau Kujang est également très unique, car il tend à épaissir son matériau et sécher, à poreux et contient de nombreux éléments métalliques naturels. Serviteur, selon les anciens, certains donnent une très noble philosophie à Kujang comme Kujang jirek neruskan padamelan sepuh karhun orang, signifiant promettre de continuer le combat de l'ancêtre, à savoir en renforçant la caractéristique de l'homme et de la nation. Il a 5 caractéristiques humaines, à savoir welas asih ou amour, tata krama ou attitude, undak usuk ou éthique parlante, budidaya budibasa, wivahayuda naraga. Et il y a 5 caractéristiques nationales, à savoir rupa ou figure, bahasa, langue, adat, tradition, aksara ou lettre, kebudayaan ou culture. Serviteurs et serviteurs, c'était notre programme, le magazine culturel intitulé Un âme traditionnel de Java occidental, Kujang. Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les auditeurs. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit le vocabulaire indonésien et vous guide pour parler en bahasa Indonesia. Cette émission est une collaboration entre La Voix d'Indonésie, station de radiodiffusion à l'étranger, avec l'Agence de développement et de renouvellement du langage, du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est « Kamu suka makanan apa ?» Ou en français, on dit « Quel nourriture que tu aimes ?» Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation dont le titre est « Kamu suka makanan apa ?» ou en français, quel nourriture que tu aimes, en bahasa Indonesia. Tony, satenya enak. Heru, oh ya? Tony, Heru, makan apa yang kamu suka? Heru, aku suka nasi goreng. Kamu? Tony, aku suka sup. Heru, kamu suka sup ikan? Tony, aku tidak suka sup ikan. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. C'est « Kamu suka makan apa ?» ou « Quel nourriture que tu aimes ?» Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot et chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Makanan apa yang kamu suka ? Makanan apa yang kamu suka ? En français, « Quel nourriture que tu aimes ?» Nasi goreng. Nasi goreng. En français, nourri frit. Soup ikan. Soup ikan. En français, soup de poisson. Aku tidak suka. Aku tidak suka. En français, je n'aime pas. Makan. Makan. En français, manger. Makanan. Makanan. En français, nourriture. Sate, sate. En français, satay. En bahasa Indonesia, pour demander de la nourriture et la boisson préférée, vous pouvez dire makanan apa yang kamu suka. Makanan apa yang kamu suka. En français, quelle nourriture que tu aimes? Minuman apa yang kamu suka? Minuman apa yang kamu suka? En français, quelle boisson que tu aimes? Si vous voulez demander spécifiquement de ça, vous pouvez dire apakah kamu suka sup ikan? Apakah kamu suka sup ikan? En français, est-ce que tu aimes la soupe de poisson? Ou l'autre exemple, apakah kamu suka nasi goreng? Apakah kamu suka nasi goreng? En français, est-ce que tu aimes le riz frit? Pour y répondre, vous pouvez dire ya suka. Ya suka. En français, oui, je l'aime. Ou en complètement, aku suka nasi goreng. Aku suka nasi goreng. En français, oui, j'aime le riz frit. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez dire « Aku tidak suka ».« Aku tidak suka ». En français, « Non, je ne l'aime pas ». Ou en complètement, « Aku tidak suka nasi goreng ».« Aku tidak suka nasi goreng ». En français, « Non, je n'aime pas le riz frit ». Avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation. Tony, satenya enak. Satenya enak. Heru, oh ya? Tony, ya. Heru, makan apa yang kamu suka? Heru, aku suka nasi goreng. Kamu? Tony, aku suka sup. Heru, oh, kamu suka sup ikan. Tony, aku tidak suka sup ikan. Chers auditeurs, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. À la fin de l'année, il y aura un prix pour un gagnant sélectionné. Le quiz est mentionnez votre nom, votre pays, votre adresse et votre nourriture préférée. Par exemple, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Alamat saya di Serbitop, on se retrouve à demain avec notre sujet intéressant. Merci beaucoup de votre attention et à demain. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical. Cette édition va vous présenter des chansons de Kroncong chantées par une chanteuse de Kroncong talentueuse indonésienne, s'appelle Wiwik Sumbogo. Chers auditeurs, pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, je vous présente une chanson intitulée Bengawan Solo. Bengawan Solo est une chanson de Kroncong assez célèbre de l'Indonésie. Cette chanson parle de la plus longue rivière de Java, Bengawan Solo. Elle est créée par Gesang Marto Hartono, ou on connaît mieux sous le nom de Gesang, en 1940, quand il avait 23 ans. La chanson est célèbre en Indonésie et au Japon. Cette chanson était autrefois utilisée dans l'un des films à écran large du Japon. Elle est traduite dans au moins 13 langues, y compris l'anglais, le russe, le chinois et le japonais. Cette chanson a été chantée par de nombreux chanteurs, y compris Gesang et Wiwi Sumbogo. Elle est connue comme une chanteuse de kroncong et de pop javanais. Son nom est bien connu surtout dans les régions de Java central et de Java de l'Ouest. Bon, chers auditeurs, la suite, écoutons une autre chanson intitulée Sampul Surat ou en français Enveloppe. Chers auditeurs, cette chanson raconte d'une personne qui a reçu une lettre qu'il attendait depuis longtemps. Son cœur est donc très heureux. Mais apparemment, c'était juste une enveloppe qui n'a pas de contenu. Malgré le chagrin, il a toujours sauvé cette enveloppe comme un souvenir. Chers auditeurs, la carrière de Wibik Sumbogo s'est améliorée depuis qu'elle a sorti l'album indonésien intitulé « Loyang dan Besi » ou en français « Secours le mur FR ». Dans les années 1980, elle a sorti plusieurs albums. Et le titre de ces albums le plus populaire est « Loyang dan Besi ». Wibik, qu'on connaît plus sous son nom d'origine est Dewi Prasetyawati Sumbogo, apparaît souvent sur le programme musical de la chaîne de la télévision nationale TVRI. Bon, chers auditeurs, pour terminer le raconte d'aujourd'hui, écoutons des chansons intitulées « Indonesia tercinta » ou en français « Indonésie bien-aimée » et « Karunia » ou en français « Grâce ». Bonne écoute et à la prochaine!
Bye.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Indahnya bumi ter.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même marque et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.